Et notre invité, nos invités ce matin dans le 8-30 d'Alpe 1, puisqu'elles sont deux, c'est Capucine Mounal, candidate investie par la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes, et Juliette Levallois, suppléante. Bonjour.
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 Vous vous présentez à deux aujourd'hui. Pourquoi c'est assez rare d'avoir les candidats qui viennent avec leurs suppléants? Pourquoi c'est important pour vous de vous présenter toutes les deux?
Bah alors déjà, nous, on représente une union, donc il y a aussi l'esprit d'équipe. Et on est, enfin moi, je ne suis pas toute seule en fait à me présenter. Mais derrière, il y a l'union et il y a plusieurs personnes qui participent aux législatives, dont Juliette Levallois qui est à côté de moi aujourd'hui.
Alors, vous avez lancé votre campagne vendredi dernier, du côté de Savines-le-Lac, avec une photo de famille, communiste, écologiste. Alors, socialiste, Marie-José Allemand n'était pas présente, mais en tout cas, elle a envoyé un texte que vous avez pu lire. Cette nouvelle union populaire écologique et sociale, elle s'est faite sans douleur, avec concertation, accord. L'absence de Marie-José Allemand, c'est un signal?
Non, pas du tout, parce que alors elle pouvait pas être présente parce qu'en fait il y avait le lancement de campagne à Gap pour la première circonscription au même moment. Donc voilà, elle a pas forcément le don d'ambiguïté et c'est pour ça qu'elle nous a envoyé un texte et d'ailleurs le texte très encourageant qui communique tout à fait autour de l'union pour les accords. En fait, ça a été arbitré au niveau national. Donc chacun allait partir avec des candidatures différentes, avec chacun des noms. Et en fait, nous, on a dû stopper la campagne parce que il y avait les accords nationaux et il fallait privilégier aussi l'union. Et voilà, donc c'est assez historique que ça se passe de cette manière-là parce que moi, je m'y attendais pas du tout au vu de ce qui s'est passé au présidentiel. Et je pense que ça a eu un effet d'électrochoc, ce qui était bien. Parce qu'en fait, ça a permis aussi le dialogue entre les partis et les dirigeants au niveau national à Paris. Et donc voilà, en fait, l'arbitrage s'est fait là-haut.
Vous êtes de la France Insoumise, on va le préciser.
Oui, alors Juliette et moi, oui, nous sommes de la France Insoumise.
Juliette Levallois.
Donc l'accord a été réalisé au niveau national, mais ce n'était pas forcément automatique au niveau local. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est une réussite. On a aussi réussi à mobiliser nos partenaires au niveau local, donc on est très heureux.
Alors parlons des sujets qui concernent directement la seconde circonscription des Hautes-Alpes. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'insécurité. On parle de Briançon comme un point de deal dans les Hautes-Alpes, notamment le quartier des Toulousaines qui comparaît très souvent du côté du tribunal correctionnel de Gap. La candidate, la suppléante que vous représentez aujourd'hui, vous promettez quoi à la population en termes d'insécurité? Parce que ça fait aussi partie des priorités. Il y a le pouvoir d'achat, mais ça fait partie des priorités des électeurs aujourd'hui.
D'accord, c'est pas le premier sujet de priorité des Français aujourd'hui, en tout cas.
C'est ce que j'ai dit, c'est le pouvoir d'achat.
Voilà. Alors oui, donc à Briançon, on est un petit peu connu pour des histoires d'insécurité, justement. Et ça fait souvent l'objet des débats lors du conseil municipal à Briançon. Alors nous, ce qu'on propose déjà, c'est pour lutter contre l'insécurité, pour moi, c'est parce qu'il y a déjà un problème d'emploi. En fait, si les gens ont un emploi, il n'y a pas forcément de problème d'insécurité, par ailleurs. Et aussi, c'est qu'il faut pouvoir former aussi la police face à ça, qui est une police de proximité et moins une police qui soit vraiment... armée avec les chiens.
Alors la police municipale armée à Briançon, ça c'est pas un bon signal?
Non, nous on n'a pas été pour. Enfin, je fais partie d'un groupe aussi politique au niveau local, et nous on n'a pas forcément été pour armer la police municipale parce que nous on estime que c'est pas son rôle d'aller au devant du danger, c'est plutôt le rôle d'une autre partie de la police. Si, par exemple, il y a un problème de drogue, c'est plutôt les stupes qui doivent intervenir et pas forcément la police municipale.
Vous parliez d'emploi, parlons salaire. On en est où aujourd'hui du SMIC? Pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon proposait un SMIC à 1400 euros. Il est revenu dessus en proposant un SMIC à 1500 euros. Les Hautes-Alpes et la seconde circonscription, c'est un tissu économique composé essentiellement de très petites entreprises, de petites et moyennes entreprises. Comment on défend ça auprès des petits patrons, des artisans, en disant « bon ben voilà, il va falloir un petit peu augmenter, sortir les finances là ».
Oui, au début, c'était 1400 euros le SMIC que nous proposions. Là, on le met à 1500 parce qu'on l'a dû l'annexer par rapport à l'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle hein, par rapport au pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat, c'est aussi, on peut aussi acheter des fournitures, des biens et des services. Et si on peut acheter des biens et des services, l'augmentation des prix, ça sera pareil pour tout le monde. Et du coup, ça va se... Comment je pourrais dire ?
Se rééquilibrer.
Voilà, exactement. Merci.
Juliette Levallois ?
Le problème aussi des petites et moyennes entreprises, c'est arriver à garder leurs salariés. Il y a beaucoup de turnover dans les Hautes-Alpes, puisqu'il y a beaucoup de saisonniers, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément stables. Et du coup, ça permet de fidéliser leurs employés. C'est très important. Une personne qui va pouvoir payer son essence, qui va pouvoir travailler avec un salaire plus digne, elle aura plus envie de rester dans son entreprise. Et c'est très important.
Est-ce qu'on peut toujours parler de turnover dans les Hautes-Alpes quand les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie, même le BTP disent aujourd'hui, mais là, il n'y a même plus de turnover, il n'y a plus personne qui vient toquer à notre porte pour trouver un emploi, pour répondre au poste?
Oui. Bah justement, c'est peut-être dû au problème du salaire. Oui. Après, il y a aussi le problème de mobilité. C'est que là, on est très... moi, je vais parler de Briançon parce que je suis de Briançon. Mais par exemple, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui se font sur Gap. Et si on veut travailler de Briançon à Gap, soit on prend la voiture, ce qui n'est pas forcément l'idéal, soit en fait, il faudrait prendre le train. Sauf que le train, il n'est pas assez développé.
J'allais vous poser la question. 80% des habitants de la seconde circonscription des Hautes-Alpes prennent la voiture, que ce soit les transports en commun, la marche à pied, le vélo, même les deux roues, on parle aussi des motos, c'est très très peu utilisé. La mobilité douce, elle a encore de mauvaises heures à vivre.
Et pourtant, ils sont 84% à vouloir changer aussi leur mode de déplacement.
Alors, c'est qui ne fait pas l'effort? Le conseil régional? L'État? Les municipalités?
Oui. C'est la compétence qui est due à la région, sauf que l'État a aussi un rôle, donc c'est plutôt un duo État-région qui doit supporter cette dépense-là. Et s'il n'y a pas la volonté de l'État de mettre beaucoup d'argent là-dessus et que les régions puissent ensuite mener des politiques qui favorisent le train et les mobilités douces, la région, elle ne peut pas forcément suivre. Après, on est quand même dans une région qui est très à droite, qui est LR, la REM, et ils ne sont pas forcément très sensibilisés à cette question-là, parce qu'on est les Hautes-Alpes, et eux, ils sont très centrés sur Marseille, donc ils développent beaucoup Marseille, et les Hautes-Alpes est très peu, ou très mal représentée au niveau régional.
Le gouvernement La République En Marche a quand même sauvé le Paris-Briançon.
Oui, sur 13 lignes de nuit, il n'y en a plus que deux.
Mais le Paris-Briançon est sauvé.
Donc parce on a quand même entendu Giraud le prend. Donc c'est plutôt une
votre adversaire politique du coup dans les urnes qui aurait bien fait son travail.
Nous, on veut défendre toutes les lignes. En fait, on est très content qu'elles soient maintenues, mais on défend le train au niveau national. C'est très important.
Après, il n'y a pas que le train de nuit à défendre sur Briançon ou sur la deuxième circonscription.
Vous voulez que le ferroviaire devienne un déplacement quotidien?
Oui, il faut que ça soit vraiment la colonne vertébrale des déplacements.
Rouvrir des gares? Oui. L'association Mobilité le demande aujourd'hui, rouvrir certaines gares?
Oui, très bien.
Lesquelles?
Alors, lesquelles, je ne sais pas encore.
La Reine, il y en a plusieurs.
Peut-être que tu connais.
Il y a beaucoup de gares à réouvrir, après on ne va pas nécessairement les citer.
La Reine n'est pas fermée, c'est qu'il y a une diminution des amplitudes
horaires. Oui, voilà.
J'aimerais aborder un point avec vous, la pauvreté. 13% de pauvreté sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes, en particulier les moins de 30 ans. Et en même temps, je vais mettre un autre chiffre en corrélation, c'est que les moins de 30 ans partent des Hautes-Alpes. Alors oui. Ceux qui restent sont pauvres.
Mais ceux qui partent aussi. Hein. Nous, on est pour une allocation jeune, justement pour que les jeunes puissent aller étudier sans qu'ils aient à travailler à côté.
Avec quelle contrepartie?
Donc ça serait 1063 euros. Et la contrepartie, en fait, on va prendre aux plus riches. Donc tout ce qui est héritage au-dessus de 12 millions d'euros, on prend. Et ensuite, on reverse aux jeunes pour qu'ils puissent faire leurs études.
Sans contrepartie?
Si, la contrepartie, c'est que la rentrée d'argent, c'est au-dessus des 12 millions d'euros. Et la dépense, c'est de le reverser, d'investir dans la jeunesse.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on leur demande quelque chose en l'occurrence? Vous avez les 1063 euros, mais
contrepartie à eux, c'est de bien étudier et puis de devenir de bons citoyens et d'avoir un très bon emploi et contribuer ensuite à la nation.
Donc un étudiant qui déserte les bancs de l'université n'aura plus son allocation?
Alors s'il étudie pas, à ce moment-là...
C'est plus un étudiant.
Il n'est plus étudiant. Donc s'il n'est plus étudiant, il n'aura pas l'allocation étudiant.
On sait aussi comment ça fonctionne dans les universités. Certains étudiants viennent au premier cours et puis après on ne les voit plus de l'année, mais ils sont encore étudiants. C'est ce que je veux vous dire en fait. Est-ce qu'il y aura une contrepartie? Vous n'êtes plus sur les bancs de cette université, vous n'étudiez plus. Là, on arrête cette allocation. C'est ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y aura cette contrepartie-là de présentiel?
Alors, on ne demande pas forcément de présentiel. Nous, on est là aussi pour faire confiance à la jeunesse. Elle a le droit aussi de faire des expériences et puis de se tromper, parce que ce n'est pas forcément évident aussi l'orientation, de trouver tout de suite sa voie. Et il existe aussi des ponts entre les différentes études. Et ça va être très compliqué de les suivre chacun, à les suivre dans leurs cours.
Alors, je parlais de la pauvreté, parlons des revenus modestes ou médians, c'est 60% de la population, des ménages en tout cas, de la seconde circonscription. On leur dit quoi? On leur promet quoi à ces ménages modestes qui, eh bien, au final, travaillent, n'ont pas forcément le droit à certaines allocations, payent des impôts, et donc voient aussi leur pouvoir d'achat un petit peu grignoter parfois. Et puis, il y a bien sûr, vous le disiez, la mobilité, ça coûte cher aujourd'hui de prendre sa voiture.
Exactement, donc c'est souvent ces ménages-là en fait qui subissent un petit peu l'économie. Après, nous, on est pour une fiscalité plus étalée, donc on propose 14 tranches, justement pour enlever le poids des revenus plus modestes jusqu'aux revenus moyens, et que le poids, en fait, il soit vraiment supporté par ceux qui le peuvent, les plus riches. Donc ça, c'est d'une part. Le deuxièmement, ben, augmenter toujours les salaires, ça rentre aussi dans le pouvoir d'achat. Et ensuite, il y a aussi les blocages de prix de certains produits de première nécessité, et puis d'autres mesures.
Dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Pourtant, il y a plein d'autres sujets à évoquer, mais en tout cas, l'accès aux médecins, pharmaciens, chirurgien dentiste, bon, vous l'aurez compris,
surtout les spécialistes.
Tous les spécialistes, dans la seconde circonscription des Hautes-Alpes, on est en dessous de la moyenne nationale. On fait quoi aujourd'hui pour qu'il y ait des spécialistes qui viennent dans certaines zones, dans certaines circonscriptions?
Bah, déjà, ça serait bien qu'on arrête un peu la casse des hôpitaux. Que ça soit aussi, ça concerne aussi les spécialistes dans le milieu hôpital, parce qu'on parle beaucoup du libéral, mais il y a une grosse fuite aussi dans le service public. Déjà, revaloriser les services publics, revaloriser aussi les métiers et leur donner les moyens, ça peut aussi donner envie aux spécialistes de venir et de s'investir dans certains milieux. C'est surtout les milieux ruraux et d'autant plus de montagne qui sont touchés par ces inégalités, qui vont vers les grosses villes. Et ça, en fait, on l'a aussi subi avec la loi NOTRe et avec la fusion des grosses régions. Donc, nous, maintenant, on est rattaché, enfin, on est avec Marseille, on est la grosse région PACA, et en fait, tout est concentré sur Marseille. Et c'est pareil, c'est aussi un problème de représentation des Hautes-Alpes au sein de la région, au sein du national.
Ouais. On encourage, mais on n'oblige pas. On encourage, mais on ne légifère pas sur la présence de spécialistes.
Bien sûr.
Si, on pourrait aussi légiférer sur la présence des spécialistes. Déjà, favoriser, leur proposer, que ce soit des locaux ou de dire, mais en fait, voilà, vous restez tant de temps sur le territoire, et puis en contrepartie, vous avez des contreparties à côté. Mais il faut aussi réinvestir et promouvoir le milieu rural lors des études, en fait. Parce que généralement, avec le numerus clausus, qui a été presque abrogé, mais pas totalement. Et il y a aussi l'effet de promotion où on est plus intéressé par tout ce qui est cardiologie infantile. C'est le must. Et en fait, il y a un problème de revalorisation des spécialités et aussi des territoires.
Oui, ça va de pair aussi avec le conjoint, la conjointe qui vient et qui, elle doit trouver du travail.
Exactement. Donc ça, c'est lié aussi à la problématique des familles. Donc c'est pas que pour les médecins, mais des familles. En général, il faut leur donner un endroit qui est assez paisible, où il fait bon vivre. C'est le cas dans les Hautes-Alpes, sauf que les écoles, aujourd'hui, elles perdent aussi des classes, alors qu'il y a une absence de 5 élèves, par exemple. On ferme une classe tout de suite et on concentre la présence des enfants. On va tourner autour de 30 enfants par classe, alors que l'idéal, ce serait 19 élèves par classe, déjà pour l'apprentissage des enfants et aussi pour le confort des enseignants.
Merci beaucoup Capucine Mounal. Merci beaucoup Juliette Levallois, candidate investie par la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes et donc suppléante de Capucine Mounal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Alpes 1.
Merci beaucoup.